Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte! Bonjour à tous, ici Laetitia. Aujourd'hui, j'accueille à notre micro un grand nom du jardinage et de la permaculture, Charles Hervé Gruyer. Il a cofondé la fameuse ferme du Bec et Loin, une référence internationale en matière de permaculture. Il a également publié plusieurs ouvrages, dont le best-seller « Vivre avec la terre », un livre de référence pour une agriculture productive basée sur l'imitation des écosystèmes naturels. Cette année, Charles dirige une collection de livres publiés aux éditions Ulmer, collection intitulée « Résilience », autour de thématiques comme par exemple « Se nourrir de son jardin », « Faire son bois de chauffage sans pétrole », « Produire son électricité », etc. Dans cet épisode, il nous raconte un peu de son parcours atypique, depuis ses débuts de navigateur à son quotidien de maraîcher bio, et nous livre sa vision d'une éco-culture pour un jardin productif et durable. Allez maintenant, place à l'épisode. Bonjour Charles.
Bonjour Laetitia.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter un petit bout de votre vie et puis nous transmettre un peu de votre savoir.
Avec joie, merci pour votre invitation.
Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et puis nous dire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui dans la vie et ce qu'est notamment la ferme du Bec et Loin ?
Je suis un paysan pas tout jeune, j'ai 63 ans. Ça fait 18 ans que j'ai créé cette ferme avec Perrine. Et c'est une petite ferme normande qui fait une vingtaine d'hectares, ce qui est très petit pour les fermes normandes, ce qui est plutôt grand pour ce qu'on appelle les micro-fermes. Et la ferme est bio, bien sûr, c'est une ferme expérimentale où on pratique plein de choses différentes. En fait, c'est une sorte de grand terrain de jeu où on peut s'amuser à explorer plein de choses. Comme on est chez nous, on a toute latitude, en quelque sorte. Donc, on expérimente des nouvelles formes d'agriculture inspirées par la nature. J'aime bien les appeler éco-cultures, donc une agriculture bio-inspirée. Mais dans plein de domaines différents, que ce soit la culture des légumes, les arbres fruitiers, le petit élevage, etc.
Ok. Et aujourd'hui, à part donc votre épouse et vous, il y a qui sur le terrain de la ferme ?
En fait, maintenant, je suis tout seul sur la ferme parce que Perrine mène d'autres projets. J'ai la chance d'avoir deux jeunes en service civique qui m'aident. Et puis, j'ai mes enfants, notamment mes filles aînées, qui s'y investissent de plus en plus.
Super. D'où vous vient cet amour pour la nature ? Est-ce que vous avez grandi dans un environnement comme ça, très en contact avec la nature, ou plutôt citadin ? Comment ça se passait dans votre enfance ?
Moi, j'étais un petit Parisien. Je me soigne, mes racines sont en ville. Mais j'étais malheureux comme une pierre à Paris, j'étais malheureux à l'école. J'avais l'impression d'être cerné par des cercles concentriques de béton. Et je ne m'en rendais pas compte quand j'étais gamin, mais j'ai un besoin viscéral de nature. Mais ma famille maternelle est normande, par contre. Et donc, on allait souvent en Normandie, tout près d'ici, et je revivais dans le jardin de mon grand-père, dans les bois. Et quand j'étais ado, je passais 8-10 heures par jour dans les bois, même souvent jusqu'à la nuit tombée. Et là, je me sentais dans mon élément. Donc, quelque part, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence un peu coupée en deux. Et quand j'ai pu faire le choix vers 18-20 ans, j'ai clairement choisi de vivre dans la nature. Et depuis, c'est une passion qui n'a fait que grandir.
D'accord. Et avant de cultiver la terre, vous avez longtemps été un homme de la mer, plutôt. À 21 ans, vous avez acheté un voilier avec lequel vous avez mené des expéditions scientifiques tout autour du globe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette partie de votre vie ?
Oui, en fait, quand j'étais ado, j'adorais travailler avec une famille d'agriculteurs voisins. Et puis, j'avais formulé le projet de devenir paysan moi-même. Mais on m'a dit, mais tu peux pas, t'es un petit parigot, tu es né là-dedans. Donc, à défaut, je suis devenu éducateur, puis marin. D'abord éducateur, et j'ai découvert le bateau presque par hasard à 20 ans. Et quand j'ai vu tout ce que ça m'apportait à moi-même, j'ai souhaité en faire profiter ces jeunes en difficulté avec qui je bossais. Et c'était le début d'une aventure qui a duré 22 ans. Donc, j'ai eu 3 bateaux successifs. Le dernier, Fleur de Lampole, était un gros bateau classé monument historique avec lequel on a fait beaucoup d'expéditions et notamment le tour du monde. Et en fait, ce projet a constamment évolué. Mais je dirais pendant à peu près 18 ans, les voyages étaient plus juste des balades au fil de l'eau avec un but éducatif. C'était devenu des véritables expéditions qu'on conduisait avec des scientifiques. Donc, on avait des partenariats avec le Muséum d'Histoire Naturelle, avec le CNRS, avec l'IRD. Et à chaque escale ou presque, des scientifiques nous rejoignaient sur le bateau. Et en même temps, le fil rouge de toutes ces expéditions, c'était les relations entre les êtres humains et la nature. Vous voyez, avant, je disais entre les hommes et la nature, mais mes 4 filles m'ont ouvert au féminisme, à l'écoféminisme, et elles m'ont dit, mais c'est pas normal de dire les hommes. Donc maintenant, je dis les rapports entre les êtres humains et la nature. Et
elles sont bien, vos filles.
Oui, oui, elles sont très, très bien. Mais les mots qu'on utilise sont signifiants. Donc, je sentais bien qu'il y avait un malaise dans notre rapport avec la nature. Et pendant les 15 dernières années de ces expéditions, on est parti se mettre à l'école des peuples premiers. Parce que comme beaucoup de jeunes, j'avais été fasciné par les Indiens, notamment d'Amazonie ou d'Amérique du Nord. Et je pressentais qu'ils avaient beaucoup à nous apprendre. Parce que nous, on est très forts pour envoyer des fusées ou faire des smartphones, mais on est nullissime dans notre rapport avec le vivant. Et du coup, pendant 15 ans, on a mené une expérience assez incroyable dans ce sens que les jeunes occidentaux du bateau allaient vraiment partager la vie de familles amérindiennes, aborigènes ou d'ethnies d'Afrique ou d'Asie. Et je pense que jamais des jeunes occidentaux ne s'étaient à ce point immergés au sein des peuples autochtones, parce que on s'habillait comme eux, on vivait avec eux, on participait à toutes leurs activités. Les jeunes habitaient dans leur maison ou sous leur tente, etc.
Pendant combien de temps sur place?
Eh ben, ça variait de une semaine à 3 mois, d'accord, selon les voyages et destinations. Mais c'était à chaque fois une sorte de rencontre très forte de part et d'autre, parce que ces peuples-là, qui sont souvent méprisés par les Occidentaux, si ce n'est toujours, c'était systématiquement la première fois qu'ils accueillaient chez eux un jeune Français, un jeune Américain, un jeune Anglais. Et c'était quelque chose d'assez bouleversant de part et d'autre. Et du coup, de l'intérieur, on pouvait enquêter sur le rapport que ces peuples entretiennent avec l'écosystème qui les entoure, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les solutions qu'ils pouvaient trouver. Et c'était une sorte de leçon de vie totalement exceptionnelle. Et en même temps, comme évoqué, on avait aussi l'éclairage de la science plutôt occidentale, donc des biologistes, des ethnologues, des archéologues, des ethnobotanistes, etc. Et sur cette question des relations entre l'être humain et la nature, on avait ce double éclairage des peuples premiers et des scientifiques, et c'était quelque part une sorte de leçon de vie totalement exceptionnelle.
Ça devait être passionnant, j'imagine. Et vous aviez déjà l'idée de regarder un petit peu ce que ces peuples-là faisaient en termes de maraîchage aussi? C'était un sujet que vous étudiez?
Alors, les peuples qu'on visitait étaient pour la plupart chasseurs, cueilleurs et agriculteurs également. On allait beaucoup en Amazonie et ils avaient des cultures sur brûlis, quoi. Mais je dois dire qu'à l'époque, je m'intéressais pas beaucoup à l'aspect agriculture. Ne serait-ce que parce que ces voyages étaient racontés sous forme de livres, de films. On tournait beaucoup de films, on écrivait beaucoup de livres, on faisait des reportages. Et ça prenait tellement de mon attention de devoir réaliser tout ça que la construction de ces récits, je dirais, qui était la manière dont on pouvait partager cette aventure avec des millions de jeunes tout autour de la planète, ben, monopolisait l'essentiel de mon attention. Donc, il me restait pas beaucoup de neurones de libre pour vraiment porter un regard attentif sur leur forme d'agriculture. Mais en même temps, après coup, quand je suis devenu paysan, j'ai réalisé à quel point la ferme du Bec-et-Loing avait été façonnée dans ces voyages. Parce que quand on a créé cette ferme avec Perrine, moi, mon rêve, c'était de vivre comme un Indien, mais en Occident. Parce que J'avais imaginé fonder une famille, notamment chez les Amérindiens en Guyane. J'avais une telle tendresse pour cette communauté que j'ai souvent visitée. Mais j'aime pas la galère de j'aime pas la galette de manioc, j'aime pas la bière de manioc. J'aime bien aller boire un café en terrasse. J'aime bien écouter Vivaldi ou une musique ou Leonard Cohen. Et du coup, je réalisais, et c'était un peu douloureux, je dois le dire, que je réalisais que mes racines étaient en Occident, mais une partie de mon cœur était en Amazonie ou beaucoup chez les aborigènes aussi en Australie. Et comment je faisais moi à partir de tout ça? J'étais où, quoi? Et après 22 ans de voyage, je ne savais plus où j'habitais. J'avais l'impression de flotter, d'être un peu un être à la dérive. Alors, c'est vrai qu'il y avait, ça m'aidait à me construire une sorte de conscience planétaire. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'étais très conscient des grands enjeux contemporains, notamment parce qu'on travaillait avec des scientifiques, parfois Théodore Monod, Hubert Reeves, René Dumont, enfin, des gens qui étaient des grands éveilleurs de conscience. Et en même temps, dans mon quotidien, je savais plus où j'habitais, quoi. Et du coup, après un premier divorce, j'avais mes deux filles aînées, Lila et Rose, avaient 1 an et 3 ans, une garde partagée. Je passais mon temps dans les avions entre mes petites poulettes et puis le bateau qui était en train de faire le tour du monde. Et c'était une période pas évidente. Et du coup, j'ai acheté ce qui allait devenir la ferme de Bec-et-Loin à cette époque-là, ou un petit peu après plutôt. Et en quelques années, devenir paysan a été en quelque sorte la réponse qui s'est progressivement imposée pour être à la fois ancré dans notre occidentalité, qui est mon terreau, et en même temps avoir un espace de liberté, parce qu'une ferme, c'est un espace de liberté, ou inventer un mode de vie selon mon cœur.
D'accord, très intéressant. J'allais vous demander justement qu'est-ce que vous avez décidé à revenir et à monter ce nouveau projet, mais vous venez de l'expliquer. Quand vous avez du coup trouvé ce terrain et que vous l'avez acheté, comment vous avez commencé? Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant sur ces terres et quelles ont été les premières étapes pour vous lancer?
Au début, c'était une vieille chaumière toute déglinguée sur 6500 m² de terrain où, avec quelques vieux pommiers, il n'y avait pas de jardin. Ça ne ressemblait en rien à ce que la ferme est devenue. Et au départ, cette reconnexion avec ce petit bout de vallée normand, c'était avant tout un projet de reconstruction, parce que je crois que j'étais pas loin de la dépression nerveuse, j'étais tout seul avec mes deux filles, toutes petites, et je me souviens qu'il y avait une ferme pédagogique à quelques kilomètres, et on allait à travers la haie regarder les petites poules, les petites chèvres, les poneys, et ça me donnait une image de bonheur de vivre, un peu comme on a dans nos lectures de gosses, que peut-être vous lisez à vos enfants, c'est toujours des fermes un peu idéalisées d'autrefois. Et le petit parigot que j'étais, ça me faisait du bien de regarder ça. Et je voulais ça pour mes enfants. Et du coup, je leur ai acheté leur premier poney, on a eu les premiers moutons, les premières petites chèvres, la basse-cour. Et on découvrait, mais avec émerveillement, je me souviens de Lila, ma fille aînée, elles étaient encore scolarisées en région parisienne. Un vendredi soir, on arrive. Et puis, du haut de ses 5 ans, elle court dans le pré et me dit « Papa, papa, il y a une petite tête !» Et ben, nos deux premiers moutons avaient eu le premier agneau.
Oh.
Et un jour, Rose va dans le poulailler, elle me dit « Papa, papa, il y a des poussins !» Et je me suis jamais lassé de ça. Là je viens d'avoir 23 naissances d'agneaux, parce qu'on a maintenant une cinquantaine de moutons. Je me suis jamais lassé de ça. C'est toujours des miracles, en fait. Une portée de poussins qui vient se mettre à l'abri, sous les ailes de la poule, et puis parfois on voit une petite tête curieuse qui dépasse et qui regarde le vaste monde en disant « Je suis où, là ?» Ou alors, tous ces petits agneaux, là, dont je m'occupe quotidiennement, c'est des miracles de la vie, quoi. Alors, c'était une démarche totalement naïve, hein, mais très bobo, hein, je l'assume. Mais c'était... Je sentais le bien que ça nous faisait, les liens très forts que ça a créés avec mes enfants, Et on découvrait tout avec un émerveillement sans bornes.
D'accord. Et est-ce que dès le début, vous avez souhaité cultiver en permaculture ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? À quel moment vous avez découvert cette approche et vous l'avez mise en œuvre?
Je vous fais grâce d'aucun détail, mais à l'époque, j'ai eu le bonheur de rencontrer Perrine. On s'est tous les deux formés pour être psychothérapeute. Donc, on a exercé pendant quelques années pour être psychothérapeute. et c'est une activité que je mène toujours un peu à mes heures perdues. Et puis, on a commencé à cultiver pour nous. On a pu racheter un peu plus de terre, notamment la ferme est traversée par le ruisseau du Bec. Et on a eu la chance de pouvoir racheter un hectare 2 qui était de l'autre côté. Ce qui fait que là, on a plusieurs centaines de mètres de berges de ruisseau qui traversent la ferme. C'est un enchantement avec les truites, les canards, les martins pêcheurs. Et du coup, on découvrait tout ça avec Perrine, qui était juriste internationale. Avant, c'était, on allait découverte en découverte, faire son pain, les confitures, cultiver le potager, faire du cidre, du jus de pomme, cultiver des plantes médicinales, apprendre à se soigner avec les plantes.
Vous avez appris un peu sur le tas, quoi, au début.
Oui, on a beaucoup lu. À l'époque, il n'y avait pas encore tellement Internet, mais un petit peu quand même. Donc, vraiment, on était autodidacte, plus. Et puis, un beau jour, j'ai dit à Perrine, écoute, moi, il me manque un sens à ma vie. On avait à l'époque un peu de sous, du temps libre, parce que les patients ne se bousculaient pas en Normandie. Et du coup, on avait la chance d'être dans une vallée heureuse, mais j'étais trop conscient des problèmes environnementaux et sociaux de la planète. Et moi, j'avais besoin d'un engagement plus fort. Alors, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais devenir maraîcher bio parce que, du coup, on nourrirait quelques dizaines de familles de la vallée avec les meilleurs produits possibles et ça donnerait un sens à nos journées, quoi. On va pas vivre comme des nantis dans notre petit paradis alors que le monde va pas bien, quoi. Et elle m'a dit, bon, écoute, moi, c'est pas mon truc, mais vas-y, je te donnerai peut-être un coup de main de temps en temps. Et là, on a démarré une aventure qui s'est en fait révélée extraordinairement difficile et challengeante. Ça se dit pas, mais confrontante. Et là, on était difficulté en difficulté parce qu'on n'y connaissait rien, parce que la terre n'était pas du tout propre au maraîchage et que le maraîchage bio, c'est un métier super difficile. Et à l'époque, en Haute-Normandie, il y avait 0,4% des terres en bio. Les gens nous disaient « Ah, mais moi, le bio, ça me rend malade, quoi. » Et du coup, difficulté à cultiver, difficulté à commercialiser. Et on s'est mis en quête de solutions. Et c'est là, en 2008, qu'on a découvert la permaculture dans la littérature anglo-saxonne. Et ça a été une découverte majeure pour nous. Et en même temps, on restait un peu sur nos fins parce que la permaculture, contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas une forme d'agriculture. Et du coup, on a mené une sorte de vastes enquêtes plutôt virtuelles, hein, mais autour du monde, pour essayer d'identifier des formes d'agriculture jardinée, manuelle, sans pétrole, naturelle, qui nous parlaient. Et on a glané plein de bonnes pratiques aux quatre coins du globe, et on les a mis en pratique dans nos jardins. Donc la permaculture était en quelque sorte le cadre global qui permettait de penser la ferme, de penser les rapports entre la ferme et le monde extérieur. Et à l'intérieur de ça, on testait des techniques, des outils qui, eux, étaient vraiment des techniques de production maraîchère, etc.
Et vous diriez que ça vous a pris combien de temps de trouver justement un petit peu votre rythme là-dessus et,
ouais.
Et ça se...
Ben, en fait, je dirais, dans les grandes lignes, pour poser les fondamentaux, 4 ans, parce que on a pris le statut d'agriculteur en 2006, et les découvertes majeures qui nous inspirent encore aujourd'hui, c'était entre 2006 et 2010. Mais on n'avait aucun repère, on ne savait pas au monde si on était productif ou totalement à côté de la plaque, etc. Et ceci étant, il y a une sorte de buzz qui s'est opéré autour de la ferme. On a commencé à recevoir de plus en plus de scientifiques, gérer un peu des pionniers du bio en France, des responsables des institutions qui gèrent le bio en France, en Europe, des agronomes américains, japonais, brésiliens, africains. Et nous, on était encore extrêmement proches de nos débuts. On était des maraîchers débutants, des arboriculteurs débutants, des permaculteurs débutants. Et on recevait toutes ces sommités. Et donc, on était dans nos petits souliers, on pétochait. Mais ils ne nous riaient pas du tout au nez. Et en fait, le bruit a commencé à courir qu'il y avait une ferme qui était peut-être plus naturelle. Et pourtant, on voyait quand même des légumes dans les jardins, ça avait l'air quand même productif.
Ça avait l'air quand même de marcher.
Mais nous, on ne savait pas. On disait, ah bon, vous croyez que... Et ils disaient, si, il se passe quelque chose quand même là. Et quelque part, en fait, ça nous a permis de nous connecter très vite à la communauté scientifique. Et j'irais que là, les voyages de Fleur de Lampol, où on avait déjà travaillé avec tellement de chercheurs, m'y avaient en quelque sorte préparé. Et on se plongeait dans des publications scientifiques en anglais, dans la littérature internationale sur les sols, sur le fonctionnement des écosystèmes, etc. Moi, j'avais déjà lu beaucoup, beaucoup sur la nature. Et du coup, quelque part, c'est là où ces 22 années avec Fleur de Lampol m'avaient préparé en quelque sorte, parce que je connaissais que dalle en agriculture, mais j'avais des bonnes connaissances du fonctionnement des écosystèmes naturels, parce que on avait étudié tout autour de la nature, un peu les grands écosystèmes de la planète. Et du coup, très vite, on a pu lancer des programmes de recherche scientifique dès 2011, en partenariat avec des grandes institutions comme l'INRA, qui est devenue l'INRAE, AgroParisTech, l'Université de Jean Blou en Belgique et d'autres. Donc des paquebots de l'agronomie plutôt classique et plutôt conventionnelle d'ailleurs dans l'ensemble, mais qui ont accepté de s'intéresser à une forme d'écoculture qui était à peine émergente.
Et justement, je voulais vous questionner sur ces recherches scientifiques qui ont été menées avec ces organismes. Déjà, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils mesurent exactement? Quels sont les indicateurs qui sont suivis? Comment on fait pour savoir si une ferme comme vous est efficace, pas efficace? À quoi là, on la compare? Enfin, c'est intéressant ce volet recherche scientifique, c'est rare qu'il y ait ça aussi dans un projet.
Tout a démarré en premier lieu avec un chercheur qui est devenu un ami très précieux, qui est François Léger, qui est une grande figure de l'agronomie française et qui s'est totalement investi et qui a même un peu mouillé sa réputation pour la première étude qui portait sur la performance économique du maraîchage bio. Et elle a duré 4 ans. On l'a appris que a posteriori, mais c'était de très loin l'étude la plus poussée qui ait jamais été conduite sur le maraîchage bio en France. Et on a eu un ingénieur polytechnicien, ingénieur des mines, extrêmement doué et talentueux, mais ça aussi on l'a appris qu'après, il nous avait caché son palmarès, qui a bossé 3 ans à temps plein sur la ferme pour conduire cette étude. On a pu engager des fondations comme notamment la Fondation de France, dès le début en fait. Donc, il y a une sorte de conjonction de moyens, d'intelligence et aussi de financement qui ont permis de mener un gros projet. Et ce gros projet a montré que, contre toute attente, en cultivant totalement à la main et avec des pratiques très anciennes, je pense aux buttes de culture permanente qui viennent des temps anciens et des régions tropicales du globe, eh ben, on était au moins 10 fois plus productif par unité de surface que nos confrères et consoeurs maraîchers bio avec un tracteur. C'est-à-dire qu'on produisait au moins autant sur 1/10 d'hectare que nos confrères sur 1 hectare. Et d'autres programmes ont montré que, dans le même temps, cette terre qui était 10 fois plus productive et qui était très pauvre au départ, eh ben, sa fertilité s'améliorait avec une vitesse incroyable. Et une étude belge a montré que le taux de carbone organique dans nos sols augmentait jusqu'à plus 10% par an. Ce qui est juste dingue. Et la teneur en minéraux biodisponibles, qui sont les nutriments des plantes, a explosé, quoi.
Mais alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça?
Eh ben, ça a commencé à se répandre quand même très vite.
Question que vous devez vous poser. Oui,
ça a commencé à se répandre très vite parce que après, mais juste pour les évoquer très vite, il y a eu d'autres programmes sur la séquestration de carbone. Jean-Marc Jancovici, qui est quelqu'un de vraiment la référence un peu en termes de carbone maintenant en France, est venu à la ferme, ses équipes sont venues plusieurs fois, on a eu un partenariat avec eux, et c'est le premier qui m'a dit « mais ta ferme, c'est un puits de carbone ». Moi, à l'époque, un puits de carbone, je savais à peine ce que c'était, quoi. Et on a pu quantifier ça avec ces chercheurs. On a vu aussi que, à partir du moment où on cultive autant sur 1/10 d'hectare que sur 1 hectare, il y a un truc qui est juste géant, c'est que on libère 9/10 d'hectare, grosso modo, pour planter des milliers d'arbres, élever des animaux, planter des haies, des forêts-jardins, creuser des mares. On a creusé 30 de mares sur la ferme. Et du coup, la ferme devient une sorte de mosaïque de milieux naturels, pleine de niches écologiques, et la biodiversité s'invite. Et on a pu mener plusieurs programmes avec des naturalistes. On a plus de 60 espèces d'oiseaux, y compris des espèces rares et menacées, qui nichent sur la ferme. On a 40 d'espèces d'abeilles sauvages. On a plus de vers de terre dans toutes nos terres. Et du coup, quelque part, on a vu qu'on était gagnant, mais vraiment sur toute la ligne, en termes de qualité de vie, en termes de revenus, en termes d'amélioration du sol, en termes d'économie d'eau douce, en termes de carbone, de climat, de biodiversité. Et du coup, c'est vrai que ce modèle-là, en 2017 déjà, donc 6 ans après le début du premier programme, les grandes institutions du bio, comme l'ITAB ou le ministère de l'Agriculture, nous disaient, mais 80% des projets de création de fermes maraîchères bio en France se revendiquent de ce concept de micro-ferme permaculturelle. Et cette étude a été reproduite des dizaines de fois ou adaptée dans beaucoup de pays. Notre premier livre a été traduit dans 8 pays, 8 langues des États-Unis jusqu'en Chine. Et on a des échos maintenant de tous les continents, de petites fermes, de micro-fermes qui se créent et qui s'inspirent de ce qui se passe ici.
Oui, ça, c'est vrai que vous êtes vraiment une référence et qu'on voit que le modèle s'étend un petit peu. Pour autant, tout le monde n'est pas convaincu. J'imagine qu'il doit y avoir des difficultés quand même que vous rencontrez ou certaines choses.
Il y a des freins qui sont éventuellement liés aux connaissances, parce que le modèle qui est enseigné même dans l'enseignement de l'agriculture bio est très très différent. Parce que quelque part, nous, on a pris un peu un chemin totalement inverse. Parce que l'agriculture contemporaine, elle artificialise les milieux. Et même quand vous êtes en bio, si vous avez un tracteur, le tracteur, il n'est pas labellisé bio. Et la simple présence du tracteur sur la ferme implique travail du sol, grande surface, sol à nu, et simplification de l'agro-système. Or, la nature, elle va toujours vers des milieux plus complexes. Et le fait, nous, de travailler à la main, de soigner très intensément les meilleures parcelles du territoire et de laisser les autres de plus en plus sauvages au profit de la nature, eh ben, ça crée un milieu complètement différent qui redevient complexe et où les services écosystémiques peuvent vraiment s'exprimer. Ça n'a plus rien à voir, même avec de l'agriculture bio, je dirais classique, quoi. Et du coup, les freins, c'est que il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas de lieu de démonstration, il n'y avait pas de support pédagogique pour enseigner tout ça. Alors maintenant, on interagit pas mal avec l'enseignement agricole d'État et qui s'intéresse beaucoup à ces nouvelles pratiques. Mais on a vu qu'il y a une floraison de micro-fermes qui se sont créées avec des gens souvent mal formés, mal préparés. Et hélas, parfois, comme le maraîchage bio est très difficile, mettez la clé sous la porte au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, quoi. Mmh.
Donc, faut peut-être avoir le temps aussi d'avoir quelques années de mise en place, peut-être, vous disiez.
Alors, du coup, ça nous amène à un autre volet de notre petite aventure, c'est que dès 2008, on a commencé à proposer des formations. Enfin, on nous a demandé, d'ailleurs, d'organiser des formations. Et on a accueilli à peu près 5000 personnes en formation, ce qui était un gros boulot en plus.
Oui.
Et on a écrit donc des bouquins, notamment « Vivre avec la terre ». Comme on voyait avec Perrine que ça se répandait très vite, mais qu'il y avait vraiment un manque de référentiel, on était peut-être un peu la maman et le papa de ce petit mouvement. On se sentait une responsabilité, on ne voulait pas que les gens se plantent et ils perdent leurs économies, leurs rêves, peut-être leur couple. Et du coup, on a dédié 6 années de notre vie à écrire « Vivre avec la terre » chez Actes Sud, un énorme livre de 1048 pages et 5 kilos. Et avec l'espoir que ce livre gagnerait aux gens des années de travail et de galère et leur permettrait d'économiser beaucoup d'argent en faisant des choix plus conscients, mieux informés, quoi.
D'accord. À quoi ressemble votre jardin et votre terrain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y trouve? Vous avez parlé, donc il y a des zones, en fait, une partie où qui concentre l'essentiel de vos efforts, et puis après des zones un petit peu plus sauvages. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans les grandes lignes
comment
ça s'organise?
La ferme est sur 2 sites. Le site sur lequel nous habitons fait 5 hectares, ce qui est grand, hein. Mais ça nous a permis de tester pas mal de systèmes innovants. Et c'est vraiment une mosaïque de petits milieux. C'est-à-dire qu'il y a les jardins maraîchers, sont tout petits, travaillés à la main. Il y a des serres quand même, une serre notamment. Il y a beaucoup de mares, il y a des animaux. Là, je vous parle, je vois mon cheval de trait, je vois l'âne, les moutons sont derrière aussi. Il y a basse-cour, etc. Mais ce qui frappe peut-être, c'est l'omniprésence des arbres. On a planté pas loin de 10 000 arbres fruitiers.
Ah oui, quand même.
Et énormément d'arbres sous toutes les formes. C'est-à-dire que toutes les formes d'agroforesterie classiques et ultra novatrices sont présentes sur la ferme. Il y a des haies, il y a des arbres têtards, des trognes, il y a 3 forêts-jardins, il y a des corridors de biodiversité, il y a un jardin creux bordé un chemin creux bordé d'une double haie fruitière qui fait à peu près 800 mètres linéaires, il y a des prévergers, beaucoup de prévergers, il y a des jardins de bois qui ont pour vocation de produire le bois énergie pour être l'énergie renouvelable produite in situ sur la ferme. Donc, partout, il y a des arbres. Et ma vision de la ferme à terme, C'est une sorte de canopée largement fruitière qui se referme et avec des petites clairières dédiées aux légumes. On a aussi un programme avec l'INRAE de Rennes sur les céréales jardinées. Donc, quelque part, la ferme produit un peu tout ce que notre région peut produire. Il y a des légumes, il y a des fruits, des petits fruits, il y a des fruits à coque, des noix, des châtaignes, des noisettes. Il y a des plantes aromatiques et médicinales. Il y a des produits animaux avec les moutons, les œufs. Il y a même des ruches aussi. Il y a des céréales également. Donc, quelque part, c'est devenu une sorte de milieu très autonome. Et si notre monde en venait à s'effondrer, s'il y avait un collapse majeur, ou si, par exemple, la guerre en Ukraine avec ce fou de Poutine s'étendait et gagnait l'Europe ou le monde, notre ferme, je pense, est en capacité de continuer à produire et à nourrir nos voisins, la communauté locale, même sans une goutte de pétrole. On a tous les outils manuels ou en traction animale pour continuer à être productif, même en cas d'effondrement.
Oui, parce qu'on est d'accord, vous êtes donc totalement autonome au niveau de votre famille, ça c'est sûr, et vous vendez en plus donc votre production, c'est ça ?
Ben, en fait, depuis 2 ans, quand on a publié Vivre avec la Terre, on s'est interrogé avec Perrine, on s'est dit, mais quelle est notre valeur ajoutée maintenant ? Parce que tout ce qu'on était en capacité de partager était dans ce bouquin. Et on s'est dit, ben, c'est de mettre l'accent sur les programmes de recherche. Parce que on a quand même, il y a une singularité dans cette ferme, c'est que on est chez nous, donc on peut s'intéresser à des thématiques totalement avant-gardistes, plus que des institutions d'État. Qui pourraient pas être aussi audacieuses, je dirais, parce qu'ils ont plus de contraintes que nous. Mais en même temps, on a la chance de bénéficier de partenariats avec ces institutions. Et nous-mêmes, on n'est pas chercheurs, ni agronomes. Mais du coup, on travaille main dans la main avec des chercheurs. Et on a la chance d'avoir des mécènes qui nous aident aussi à porter ces programmes qui sont quand même coûteux et qui doivent s'étaler dans la durée, sur pas mal d'années. Donc, on s'est dit, le mieux qu'on puisse faire pour servir le monde de demain, c'est de développer ces programmes de recherche, et notamment sur la question de la résilience, parce qu'on voit vraiment le réchauffement climatique commence à taper vraiment fort, et ça nous inquiète énormément. Et du coup, tous les programmes menés actuellement au Bec-et-Loin portent sur cette question de la résilience.
Alors justement, oui, c'est un point que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure, le côté puits de carbone qu'a la ferme du Bec-et-Loin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que la ferme est capable aujourd'hui de stocker du carbone et de jouer du coup un rôle au niveau du changement climatique?
Je dirais que la ferme stocke du carbone dans les sols et dans les arbres et la végétation pérenne. J'ai parlé de l'omniprésence des arbres, donc forcément un arbre c'est un petit puits de carbone pendant son cycle de vie. Mais les sols, le rôle des sols est peut-être moins connu du grand public. Or, il est essentiel parce que sans les sols, on serait pas là en train de viser agréablement. Et nous, on a eu la chance d'avoir des sols très pauvres. Et je dis la chance parce que on a été très critiqués quand on a publié les résultats de nos études. Et une critique qu'on n'a pas eue, c'était si on avait eu un sol exceptionnellement fertile, les gens auraient dit ouais, mais attends, facile ton histoire, t'as vu les sols que t'as. Or la chambre d'agriculture nous disait, mais vous avez un des plus mauvais sols maraîchers de la région, quoi. 15-18 cm de profondeur, matière organique bloquée, très peu de minéraux, et en dessous, un lit de cailloux de plusieurs mètres d'épaisseur, et un sol qui tient pas du tout l'eau. Donc, on a vraiment créé, en quelque sorte, une sorte de sol anthropique, c'est-à-dire créé par la nature, mais avec l'aide des humains, quoi. Et ce sol, nous, on voyait bien que l'épaisseur de l'humus augmente de 1 à 2 cm par an. Et comment, grâce à tous les paillis, tous les mulches qu'on apporte à la surface de nos buttes de culture. Et c'est là où la conception de la ferme est intéressante, parce que comme on a un petit cœur intensif entouré de beaucoup d'autres espaces plus sauvages, on peut organiser des transferts de matière organique, qui peuvent être les roseaux des mares, la taille des haies, les déjections des animaux, des restes de culture, etc. Et vers les cœurs intensifs. Et du coup, on amène beaucoup, beaucoup de paillis, d'autant plus que comme les jardins sont tout petits, mais très productifs, ça permet de concentrer beaucoup de matière sur une petite surface. De même qu'on concentre les soins, qu'on concentre l'eau d'arrosage, etc. Et du coup, toute cette matière organique, on a pu constater qu'elle se transformait en humus, Et l'humus, c'est essentiellement des longues chaînes carbonées qui accueillent en leur sein les minéraux et qui les libèrent quand les plantes en ont besoin. Et du coup, c'est ça qui est quand même la bonne nouvelle peut-être de ces travaux, c'est qu'on n'est pas obligé de détruire la planète pour nourrir les humains. On peut à la fois produire une excellente nourriture pour les êtres humains tout en enrichissant rapidement la qualité des sols. Et qui dit sol riche en matière organique, en humus, dit aussi sol qui tient beaucoup plus l'eau. Parce que l'humus, c'est comme une sorte de grosse éponge qui est capable de tenir peut-être jusqu'à 10 fois son poids en eau. Et du coup, comme on est confronté quand même à des sécheresses de plus en plus fréquentes, eh ben, le fait d'avoir un milieu dominé par les arbres et avec des sols très riches en matière organique, et avec en plus une récupération de l'eau dans de multiples mares, eh ben, ça permet de profiter beaucoup plus des pluies quand il pleut.
C'est quelque chose que vous essayez d'anticiper, ça aussi, le fait qu'on aura de plus en plus de sécheresses et un climat qui va changer, peut-être au niveau des espèces aussi que vous plantez, des variétés, est-ce que
vous prenez en compte ? Complètement, parce que moi, je dirais que c'est presque un peu en train de devenir une sorte d'obsession. C'est que je me dis, mais le monde qu'on va laisser à nos enfants, c'est une catastrophe, quoi. Ça va être un monde de disette, de famine, de pénurie, ils vont sortir d'une crise pour tomber dans une autre. Et j'adore mes enfants, j'adore les vôtres, j'adore tous les enfants du monde. Je veux pas de ça pour les générations à venir, quoi. Et du coup, d'un côté, je me sens vieillir, être fatigué. Je vois parfois ma santé n'est pas toujours au top. Mais d'un autre côté, ça me donne une niaque, une envie de me battre jusqu'au bout parce que il faut qu'on trouve des solutions. On a un devoir de réparer cette planète. On peut pas laisser les choses se dégrader aussi vite sous nos yeux sans rien faire. Et moi, je suis paysan, j'ai une petite ferme. À mon niveau, j'essaie d'améliorer cette ferme, de poursuivre ces programmes de recherche, d'élaborer des solutions. Et le deuxième volet qui s'impose tout naturellement, c'est de faire connaître ces solutions. Et par exemple, avec ma fille aînée Lila, qui est éditrice aux éditions Ulmer, et avec l'équipe d'Ulmer, qui est une formidable équipe, on a créé une collection de petits guides pratiques qui s'appelle Résilience. Ce sont des petits guides monothématiques pour aider les gens à changer leur mode de vie, à rentrer dans une démarche de transition heureuse et à diminuer leur empreinte écologique, mais d'une manière réjouissante.
Ils sont très chouettes, on a reçu quelques-uns, notamment celui d'Aurélie Valta aussi, avec qui on travaille aussi au magazine. Et puis le vôtre qui s'appelle « Se nourrir de son jardin », si je ne me trompe pas.
Mais oui, merci. Parce que nous-mêmes, comme on n'y connaissait rien, on était des petits citadins. On a énormément appris par les livres, on a beaucoup appris grâce à YouTube, grâce à Internet. Mais on a vu que souvent, les livres sont assez généralistes. Alors quand tu veux vraiment creuser un sujet, quand tu as lu 2-3 livres, au bout d'un moment, ils se repompent un peu les uns les autres. Ou alors, tu achètes un livre de 350 pages et tu n'en as que 2 ou 3 qui traitent du sujet que tu souhaiterais approfondir. D'où l'idée de faire une collection de petits guides monothématiques où chaque guide fait une promesse aux lectrices, aux lecteurs. Il dit, écoute, voilà, même si tu es débutant niveau 0, tu achètes ce guide, tu lis tes 128 pages ou tes 172 pages, à la fin de ta lecture, tu seras en capacité de réaliser tes premières réalisations.
D'être autonome sur ce sujet.
De créer tes premières réalisations.
Tout à fait.
Et les livres s'attachent à donner une vision globale, simple, claire, très agréablement présentée, mais sur une thématique, d'avoir les grands points de repère qui se mettent en place, ce qu'on trouve souvent pas sur Internet, et d'être en capacité de démarrer. Et parce que maintenant, il faut pas qu'on reste dans les vœux pieux, à discuter d'écologie à la terrasse des cafés ou dans nos salons. Il faut qu'on se mette les mains dedans. Et il faut qu'on diminue notre empreinte écologique, c'est un devoir vis-à-vis de nos enfants, et c'est une très très belle aventure.
Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce mot « résilience » pour le titre de la collection ?
Oui, c'est imposé, ça n'a même pas fait de débat. Il s'est imposé parce que, notamment en 2019, on a eu une première canicule en juin, on a eu des gels tardifs jusqu'en mai, première canicule en juin, et en juillet, on faisait la moisson, ça m'a beaucoup frappé. Le thermomètre est monté à 42,7 degrés dans notre vallée normande, en climat océanique, en 2019. Et là, je voyais nos plantes mourir. Et j'ai réalisé ce jour-là que on avait beau nous travailler toutes nos forces sur la question de la résilience, on peut pas être résilient tout seul. Peut-être qu'on aurait été plus résistant 15 jours par rapport aux fermes qui nous entourent, mais c'est tout. Et donc, c'est collectivement qu'il faut qu'on devienne résilient. Et on peut pas non plus attendre 2030, 2040 pour s'y mettre. C'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Et ça a renforcé mon envie de créer cette collection de guides talonnée par ce sentiment d'urgence. Mais après, même si je ressens très fort une éco-anxiété, je voudrais vraiment dire à celles et ceux qui nous écoutent que c'est tout sauf une démarche anxiogène, cette démarche de transition. C'est au contraire totalement réjouissant, parce que franchement, ta vie est bien meilleure après qu'avant. Et elle s'embellit de jour en jour. Pourquoi ? Parce que ça t'amène à développer plein de compétences que tu as en toi à l'état latent. Par exemple, tu évoquais le livre d'Aurélie, faire ses savons, ses cosmétiques avec les plantes du jardin, cultiver son jardin, planter un verger, ou d'autres titres s'adressent aux urbains, mais faire par soi-même, gagner en autonomie, gagner en résilience, c'est déployer sa créativité, déployer des talents, ça te donne confiance en toi, t'as la joie de partager avec d'autres, tu te relies à d'autres, et c'est ultra réjouissant. Donc, quelque part, c'est tout sauf une démarche punitive. C'est vraiment une démarche profondément joyeuse et épanouissante.
Alors, pour ceux qui voudraient suivre un petit peu vos traces, mais qui n'ont peut-être pas le même terrain, le même temps disponible aussi, qu'est-ce que vous conseillez pour appliquer des premiers principes de permaculture, d'éco-culture, comme vous dites, si on a juste un petit bout de jardin un peu normal, voire même pas de jardin, juste un petit balcon, quelques jardinières? Par quoi est-ce qu'on commence?
Je dirais... prenez le temps de vous former. Il y a maintenant, il y a énormément de livres sur la permaculture. Bon, il y en a un certain nombre qui sont excellents. Et lisez, je pense au livre de Joseph Chauffret qui s'est formé ici, ou à Mon Petit Potager, le livre d'Arthur là que publié par Ulmer. Si vous avez le courage de vous plonger dans Vivre avec la Terre. Ça peut nourrir votre démarche pendant bien des années, y compris celle des agriculteurs professionnels. Il y a les guides résilience. On a beaucoup de ressources maintenant pour se former. Et puis, allez-y, parce que les connaissances qu'on peut glaner dans les livres, sur Internet, etc., ne valent que lorsqu'elles sont confrontées à l'expérience de terrain. Donc, il faut nourrir son intelligence, se mettre les mains dedans, pas avoir peur de se planter, c'est le cas de dire. Et puis parce qu'on apprend beaucoup de nos erreurs, et puis il faut y aller, quoi, dans la joie.
Ok, même si on n'a pas... C'est vrai que ça peut faire peur parfois d'avoir presque trop d'infos, et puis finalement juste un petit bout de jardin quelques heures par semaine, mais on se lance, quoi.
Oui, vous pouvez aussi suivre des formations. Moi, je continue à proposer quelques formations à la ferme, là. On avait un peu levé le pied, et puis là, je suis en train d'en reproposer.
Oui, il y a votre programme de formation, je crois, sur votre site.
Oui, je vais bientôt en reprogrammer des nouvelles là d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines. Et parce que c'est vrai que les gens qui viennent se former ici, ben ou ailleurs, hein, dans d'autres fermes, ben ils sont contents parce que ils ont une ferme où depuis 18 ans, il y a eu énormément de choses différentes mises en place, donc ils peuvent voir grandeur nature à quoi ça ressemble. On peut dialoguer, interagir, et puis surtout ils peuvent se mettre les mains dedans. Apprendre à utiliser les outils, apprendre les gestes techniques, guidés par quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté. Du coup, ils progressent beaucoup plus vite. Et les 5000 personnes qu'on a formées depuis 2008, beaucoup sont restées en lien avec nous. Aucun ne s'est plaint d'avoir créé son jardin. Au contraire, tous les gens nous font part de leur joie, de leur émerveillement, quoi.
Alors, vous l'avez mentionné un petit peu tout à l'heure, vous êtes aussi psychothérapeute, ainsi que votre femme Perrine. Vous êtes formée en psychologie, sophrologie, yoga, massage. Est-ce qu'il y a un lien entre ces activités et votre activité principale de maraîcher bio? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Alors, en ce qui me concerne, oui. Je dirais Perrine non, parce que Perrine, maintenant, ne travaille plus à la ferme. Elle est totalement dédiée à ce qu'on appelle l'essaimage, c'est-à-dire l'accompagnement de porteurs de projets, de collectivités ou éventuellement d'entreprises aussi dans la mise en place de systèmes comestibles. Pour moi, c'est une dimension essentielle de ma vie. C'est-à-dire que je vois tellement de gens en souffrance, et j'ai vraiment envie, dans les années qui me restent à vivre, de traiter de front la guérison de la Terre, c'est-à-dire restaurer cette planète superbe, et la guérison des êtres humains. C'est un vaste projet, mais j'y travaille à mon tout petit niveau. Les gens se sentent tellement bien dans un lieu où la nature s'épanouit, un lieu luxuriant, vivant. Il y a une énergie incroyable hein, ici, quand même, parce que je dirais qu'on cherche juste à mettre notre créativité, notre intelligence d'être humain au service du projet de la vie. Et je crois que le monde vivant, la nature, n'attend que ça, que nous autres êtres humains rentrions dans cette démarche de co-création avec la vie. Et ça donne une démarche, ça donne une ferme, pardon, qui est d'une extraordinaire vitalité. Et les gens le ressentent. Et quand on peut, je propose par exemple avec une merveilleuse équipe une formation qui s'appelle Écologie intérieure. C'est un travail de guérison intérieure par le biais du massage thérapeutique et de pratiques inspirées du yoga, de respiration, de détente, etc. Mais une semaine comme ça, dans le cadre assez enchanteur de la ferme, tout le monde atteste de la profonde transformation intérieure que ça peut engendrer. Et je crois que demain, on va être dans un monde de plus en plus perturbé et que, quelque part, je crois que c'est assez important qu'on travaille sur nous pour s'ancrer, se stabiliser, se renforcer et devenir aussi des êtres résilients. Il n'y a pas que la résilience du jardin, il y a aussi notre résilience en tant que personne humaine, de manière aussi à mieux aider notre communauté, notre famille, parce que le jour où tout ira mal, le monde aura cruellement besoin de personnes ressources qui auront peut-être traversé leur zone d'ombre un peu avant les autres, et traversé leur zone de vulnérabilité, et qui seront capables de tendre la main et d'être des bons compagnons de route pour leurs frères et leurs sœurs humains.
Tout ça donne très envie de venir à la ferme. Et d'ailleurs, vous m'attendiez au portail tout à l'heure, on s'était mal compris. Et j'aurais adoré être là en chair et en os. Mais
tu es toujours bienvenue, Laetitia. Oui.
Une prochaine fois, avec grand plaisir. Pour terminer cette interview, je vais vous poser la petite question rituelle de notre podcast. Est-ce que vous avez un petit conseil, comme ça, en quelques mots, pour voir la vie en vert?
Pour voir la vie en vert, je dirais que mettez vos mains dans la terre. Mettez-vous dans une sorte d'état un peu méditatif, enfoncez vos mains dans l'humus et fermez les yeux et écoutez, ressentez. Et il y a une étude anglaise qui a montré que le simple fait de toucher la terre dégageait des endorphines qui sont les hormones du bonheur. Peut-être que ça explique pourquoi on a autant de plaisir à jardiner. Mais reconnectez-vous à toute cette vie du sol, les vers de terre, mais tous les micro-organismes, les champignons, c'est bourré de vie. Et c'est grâce à toutes ces formes de vie minuscules que nous, on est là. Et on est tous solidaires, on est tous passagers d'un même bateau. À notre époque où l'humus est détruit tellement rapidement, ce simple petit geste est une invitation à découvrir qu'on peut tomber amoureux du sol, d'un sol vivant, et en prendre soin. Et prendre soin de la Terre, c'est la plus belle démarche qui soit parce qu'elle prend soin de nous en retour et elle nous aide à devenir des meilleurs êtres humains.
Une très belle conclusion. Merci beaucoup Charles. On mettra donc, comme promis, tous les liens vers vos ouvrages, notamment donc les nouveaux livres de la collection Résilience que vous dirigez chez Humer, et puis le site de la ferme, etc. Toutes les ressources dont on a parlé dans la page de description de l'épisode. Bonne continuation à la ferme et je vous remercie. Puis à un de ces quatre en chair et en os alors.
Merci infiniment et alors je souhaite un joyeux printemps à Vert Magazine et à toutes les lectrices, les lecteurs et les auditrices et les auditeurs qui nous entendent.
La Voix Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !